Single Jungle, le podcast des célibataires. Quand on dit tu n'es pas comme les autres femmes, là c'est vraiment quelque chose... Toi, je t'ai pioché dans la ligne, tu tranchais, t'étais vraiment pas comme les autres, c'est assez particulier. Quelque part, on est choisi. Ce type-là nous dit, bon, parmi un million de femmes, c'est toi que j'ai remarqué. T'étais très différente, tu ressortais, tu irradiais. C'est franchement toxique. En quoi c'est flatteur de ne pas être comme les autres femmes, finalement?
Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Racha Belmehdi. Bonjour Racha.
Bonjour Louisa.
Nous allons parler de tes deux livres, mais d'abord, comme d'habitude, on se situe. Je commence. Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis hétéro, j'ai 43 ans. Je suis d'origine algérienne, donc femme racisée, algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Je ne suis pas en situation de handicap actuellement. Je suis une femme grosse, je l'ai dit, je le redis, parce que ça me définit aussi, c'est comme ça que je me définis. En termes social, je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe ou transclasse. Ça veut dire qu'au départ, moi, mes parents étaient plutôt de la classe ouvrière, classe moyenne. Et par mon parcours, par des opportunités, par de la chance aussi, je suis arrivée à la catégorie socio-professionnelle supérieure, CSP+. Je suis cadre dans la communication et je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place dans la minorité de Français qui gagnent cette somme. Source Observatoire des inégalités. Voilà. Ah oui, c'est un podcast qui parle de célibat, notamment. Et donc, je suis présentement célibataire. Racha, tu peux faire le même canevas ou beaucoup moins, c'est comme tu préfères.
Ok, bon alors moi je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle, valide. Je suis algérienne de nationalité mais aussi française depuis pas très longtemps. Je me définirais assez difficilement d'un point de vue social parce que mon père est transfuge de classe, il vient d'un milieu très 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 pauvre. Il a réussi à devenir diplomate mais il me semble qu'il faut plusieurs générations pour considérer qu'on est sorti réellement de la classe ouvrière. Donc, je saurais pas trop, étant donné que moi-même, j'ai été amenée à faire des petits boulots, des choses comme ça, que je suis pas forcément très stable financièrement. Ouais, j'aurais un peu de mal à me définir, finalement.
Ok, très bien. Et est-ce que tu souhaites préciser ton statut de célibataire ou pas célibataire?
Oh oui, je suis en couple depuis 10 ans.
Très bien. Bien, merci pour toutes ces précisions.
Mais merci à toi.
On va parler de tes deux livres. Donc, le plus récent s'appelle « À votre service, les travailleurs essentiels qu'on ne voit pas ». Et le précédent s'appelle « Rivalité non féminin, une lecture féministe du mythe ». Les deux livres sont édités aux éditions Favre. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on va commencer par rentrer un peu plus dans qui tu es, parce que je pense que ça a joué bien sûr dans les sujets que tu as souhaité aborder. Donc tu es une personne qui a voyagé grâce à ton papa. Est-ce que tu peux préciser un petit peu?
Oui, et donc mon père était diplomate. Du coup, j'ai passé toute mon enfance à l'étranger. J'ai toujours fait l'expérience de la minorité, très tôt. Mais ça ne s'est pas forcément traduit de la même manière quand je suis arrivée en France. Donc je suis passée assez facilement de l'Algérie à la Côte d'Ivoire, puis à la Russie, ensuite la France, voilà.
C'est une richesse extraordinaire d'avoir vu tous ces pays, toutes ces cultures.
Ouais, surtout à cet âge-là, à un âge où on est tellement malléable, flexible et qu'on apprend, qu'on absorbe tellement, on est des petites éponges. Donc ouais, c'est une énorme chance, bien sûr, ouais.
Est-ce que tu as pu apprendre d'autres langues en allant dans ces pays-là?
Le truc, c'est qu'en Côte d'Ivoire, donc c'est un pays francophone globalement. Après, il y a beaucoup de langues là-bas qui sont présentes, mais du coup, c'était assez compliqué. Le russe, j'ai acquis quelques notions. Ensuite, la France, voilà quoi. Je me démerde en français apparemment. Je parle aussi arabe, je parle espagnol, je parle anglais. Voilà.
C'est là aussi une grande richesse.
Oui.
Est-ce que cette, la langue arabe, elle t'a été transmise par tes deux parents ou seulement ton père ?
Par mes deux parents.
Ok, parce qu'on n'a pas encore parlé de ta maman.
Oui, non, ma maman est algérienne aussi. Alors elle, pour le coup, elle a un parcours professionnel un peu cassé parce qu'en fait, elle vient d'une famille qui est relativement aisée et elle a très vite intégré la fonction publique. Elle est devenue institutrice. Donc, c'était pas vraiment forcément par vocation. C'est quelque chose qu'elle a fait parce qu'il fallait faire quelque chose. Au bout d'un moment, d'ailleurs, elle avait arrêté parce qu'elle voulait devenir hôtesse de l'air pour voyager. Et puis, à ce moment-là, elle est tombée sur mon père. Et puis, bingo, c'est un type qui voyage. Allez hop, on y va.
Et est-ce qu'elle a subi, entre guillemets, le destin des femmes d'expat, c'est-à-dire ne pas pouvoir forcément choisir la profession qu'elle souhaite faire? Parce qu'on arrive dans un autre pays, on n'a pas toujours les bonnes opportunités. Les diplômes ne sont pas toujours reconnus, c'est parfois très complexe aussi de gérer la maison, les enfants. Mmh. Ou est-ce qu'elle a pu vivre sa carrière comme elle le souhaitait ?
Oui, ben non, moi pour ma mère, je pense que le problème ne s'est vraiment pas posé. C'est quelqu'un qui, je pense, n'a jamais été spécialement intéressé par le fait de faire carrière et le travail en soi. Je pense qu'être mère au foyer, c'est un énorme travail déjà. Du coup, elle ne pensait pas spécialement au reste.
Et toi, tu as des frères et sœurs ?
Oui, j'en ai 4.
Les deux, des filles, des garçons ?
Un frère et 3 sœurs.
Alors, c'est une question que je commence à poser maintenant quand j'ai des personnes qui ont des fratries. Est-ce que tu es satisfaite de ta fratrie ?
Comment ça, satisfaite ? Dans quel sens ?
Dans le sens,
si je m'entends bien avec eux ?
Oui, est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que si tu avais pu choisir, vraiment, il y en a un ou deux, bon, c'est pas mes préférés ?
Ah, je dirais que là où mes parents ont réussi notre éducation à tous les 5, c'est qu'ils ont vraiment créé 5 individus qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Ça n'empêche pas de bien s'entendre, mais pour le coup, on est vraiment extrêmement différents. Et je pense que si j'avais rencontré mes frères et sœurs dans un autre contexte, bah, je ne suis pas certaine qu'on serait devenus amis. Ce qui serait peut-être une erreur de ma part, parce qu'au final, on s'entend très bien, même si on n'a rien en commun. Ouais, c'est une forme de réussite, je trouve, de la part de mes parents, d'avoir créé 5 individus qui ont réussi à s'exprimer totalement différemment. Voilà.
Oui, puis avec une cohésion quand même.
Oui, absolument.
Très bien. Alors, comme je partage aussi mes expériences, de mon côté, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais je le redis pour ceux qui nous prennent en cours de route, je ne suis pas spécialement satisfaite de mes 5 frères. J'aurais adoré avoir des sœurs, évidemment. Mm. Donc, mes meilleures amies sont devenues un peu mes sœurs. Et non, il y en a quelques-uns. Non, on ne serait pas amis dans la vraie vie, ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une cohésion ? Ben, c'est la cohésion autour de maman. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous mettrai les références des épisodes où j'en parle un peu plus longuement. Alors, on va arriver sur peut-être le dernier livre, et puis après, on va remonter. On est actuellement en 2024 en France, mais aussi dans plein d'autres pays, dans ce qu'on appelle une période d'inflation forte. Et je pense que les personnes qui le subissent le plus sont évidemment les personnes les plus précaires, dont ce qu'on appelle les travailleurs essentiels. Et je voulais insister sur ce terme-là. Pourquoi tu as voulu utiliser ce mot-là en couverture de ton livre ?
Alors, ce n'est pas forcément mon choix. C'est juste un mot que j'ai beaucoup entendu pendant la période du Covid, où là, on s'est rendu compte de l'utilité sociale de certains métiers. Et ça nous a évidemment montré ceux qui n'étaient pas utiles également. Et là, on s'est vraiment rendu compte que c'était hyper important d'avoir des personnes dans le service, des personnes qui font tourner les services publics, des personnes qui font tourner les commerces, que ce soit les commerces alimentaires ou les pharmacies, les choses comme ça. Donc du coup, voilà, on avait beaucoup de personnes qui étaient confrontées au quotidien, au public, et dont on ne se rendait pas compte à quel point ils étaient importants dans notre société. Et on s'est bien rendu compte à ce moment-là que si, je ne sais pas, les banquiers arrêtaient de travailler, bon, bah, ça ne changerait peut-être pas grand-chose à notre quotidien. Alors que bon, quand il y a une grève à la RATP, on le sent immédiatement et notre quotidien est réellement impacté pour le coup.
Oui, on le voit aussi notamment pour la propreté. Mm. C'est un secteur que tu as pas mal évoqué. Il y a notamment eu la grève des éboueurs effectivement l'an dernier. Là, on a quelques mois des JO. C'est une des craintes légitimes des employeurs, mais ils n'ont qu'à faire le boulot, à savoir augmenter les gens et les traiter correctement. On ne peut rien faire sans les éboueurs dans toutes les villes et moi, je les soutiens vraiment, évidemment. On verra comment ça va se passer d'ici les JO. Et tu as beaucoup insisté sur... Alors, on dit les femmes de ménage parce que c'est une profession qui est extrêmement féminisée, comme beaucoup de professions précaires. Et en fait, tu avais constaté cette invisibilité de ces personnes-là parce que les patrons, c'est pas à la demande des salariés globalement, c'est surtout les patrons qui ne veulent pas que le personnel de ménage soit là en même temps que les équipes. Et donc, elles sont forcées de venir à des heures très nocturnes. Je vous renverrai vers un article du Parisien où il y a une dame qui explique son parcours. Donc, elle se lève à 2h du matin tous les jours et elle fait des allers-retours et tout ça pour un salaire de misère. Pourquoi c'est important pour toi de vraiment les mettre en avant, les rendre visibles ?
Alors déjà, moi, j'ai beaucoup exercé ce type de métier. J'en ai fait beaucoup, j'en exerçais encore un au moment où j'ai écrit mon premier livre. Et j'avais vraiment besoin de tirer quelque chose de positif de toutes ces expériences un peu foireuses, où vraiment, c'était assez difficile de trouver quelque chose que j'avais acquis en passant par ces métiers-là et qui m'avait fait grandir. Donc, j'avais besoin de tirer une réflexion, voilà, par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ces métiers-là. Ensuite, il y a évidemment la crise du Covid qui, justement, a pointé l'attention sur ce type de personnes, sur ce type de métier, de profession. Et le fait qu'une fois sortis de la crise, on soit tous retournés à nos travers et que, voilà, la plupart des personnes que j'ai interrogées dans ce livre me disent toutes que ben, les interactions avec le public sont devenues plus difficiles qu'avant le Covid.
Oui, on voit que les incivilités, ce qu'on peut décrire comme simplement ne pas être poli, ne pas répondre à un bonjour, parfois être même insultant. Il y a un gros sujet aussi avec tout ce qui est, je dirais, les matières fécales. C'est-à-dire qu'on arrive à des niveaux où il y a des gens qui refusent de tirer la chasse d'eau, de nettoyer après, enfin faire des choses de base qui sont à la portée d'un enfant, parce qu'ils estiment que, ouvrez les guillemets, il y a quelqu'un qui passe après moi.
Absolument.
Ça, c'était important de le mettre noir sur blanc, de montrer que ces personnes qui sont peut-être parfois d'une certaine classe sociale très privilégiée ne sont pas capables ou refusent la moindre des politesses.
Mmh. Et surtout que ce type de comportement, ils existent. C'est pas des légendes urbaines, c'est pas un fantasme d'Émile Zola ou de Victor Hugo. C'est vraiment réel, ça existe. Et moi, justement, j'avais du mal à penser qu'un être humain puisse se comporter de cette manière-là, de façon aussi ouvertement. Pour moi, c'était absolument impensable. Et puis, quand on m'a raconté ces histoires-là, j'en revenais pas. Pour moi, c'était une légende, cette histoire des personnes qui passent devant les caissières et qui disent à leurs enfants, bon, bah, si tu travailles pas à l'école, tu finiras comme la caissière. Pour moi, c'était une légende. Je comprenais pas comment on pouvait s'adresser comme ça à une personne. Et la quasi-intégralité des caissières que j'ai interrogées m'ont raconté une anecdote comme celle-là.
Ça arrive encore en 2024 ?
Ça arrive encore en 2024,
oui. Alors qu'on les a applaudis pendant le confinement et... Alors moi, je crains que le gouvernement les ait totalement oubliés, mais ça se voit factuellement. Il n'y a pas eu de reconnaissance, qu'elle soit financière ou autre. Alors, petit point politique, économique pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Parce que je vais entendre des gens qui vont me dire « Mais en quoi le gouvernement il peut augmenter les salaires des gens, c'est des entreprises privées ?» Alors, il y a plein de possibilités. Fut un temps que vous n'avez peut-être pas connu, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Ça a été un choix politique, sans doute désastreux, on le voit aujourd'hui, d'arrêter ça. Donc ça, on pourrait y revenir. C'est un vrai choix politique. Le deuxième, ces entreprises privées bénéficient d'exonérations fiscales énormes. Elles ont des baisses de charges patronales afin de faciliter le recrutement et la mise en place de bonnes pratiques. Et bah ça, il y a plein de sources syndicales qui pourront vous le confirmer. Elles touchent, hein, il n'y a pas de problème. Elles prennent tout cet argent public, mais elles ne le rendent pas. Et lorsqu'elles font des bénéfices, et il y en a beaucoup, notamment dans les secteurs de propreté, elles font vraiment une marge, elles ne retransmettent pas. Donc, ça s'appelle le partage de la valeur. Il est quasiment inexistant. Et quand ils ont des actionnaires, là, par contre, les actionnaires récupèrent plein de choses. Donc, c'est un vrai sujet de politique globale de l'État qui pourrait dire, bon, bah, vous ne jouez pas le jeu, on arrête. On arrête de vous faire des cadeaux, ça suffit. Et puis là, peut-être que ces patrons se mettront à nouveau autour de la table. Ça, c'est sans doute un débat que tu as pu avoir avec certains syndicats, si tu as pu en discuter avec eux ou pas du tout.
Non, pour le coup, ça, c'est un truc auquel j'ai pensé moi-même, dans le sens où voilà, l'État a des moyens de pression, mais ne les exerce pas. Et à quel moment l'État, s'il n'exerce pas les moyens de pression, s'il ne gouverne pas, s'il n'impose pas parfois, pour moi, voilà, il y a ce moyen de pression-là dont il faut absolument user, mais malheureusement, vu les gouvernements de droite successifs en France en ce moment, c'est assez compliqué de faire valoir ça auprès d'eux.
Et quel espoir peuvent avoir tous ces salariés, je pense aux femmes, mais aussi aux hommes qui sont dans ces secteurs-là. Il y en a que tu as croisé, toi, temporairement, parce que c'était un travail d'appoint, mais on voit qu'il y a des gens qui y passent une bonne partie de leur vie. Est-ce que certains ont quand même l'espoir de trouver autre chose, de s'en sortir, ou ils sont un peu dépités, finalement ?
Pour moi, le seul espoir, c'est finalement d'en sortir. C'est d'envisager des formations, d'envisager... des reconversions, mais ça, bon, là, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément possible. Pour moi, voilà, pour l'instant, l'avenir, il est quand même relativement sombre pour ces métiers-là. Mon livre, c'est une toute petite pierre à l'édifice, mais voilà, ça va pas suffire à les revaloriser du jour au lendemain. Il y avait quelque chose auquel je pensais, mais qui est extrêmement utopique encore. Je me disais que ce serait bien que ces personnels-là puissent bénéficier de la robotisation. dans le sens où voilà, on commence à observer les caisses automatiques, par exemple. Il y en a de plus en plus. Moi, ça me dérange absolument pas de passer par là. Si, par ailleurs, on peut garantir aux personnes qui travaillaient ici une sécurité, notamment par, je ne sais pas moi, un revenu universel ou quelque chose comme ça. On peut y réfléchir, il y a quand même beaucoup de pistes. Mais moi, je ne peux pas comprendre le fait que voilà, on ait la robotisation qui soit déjà là à des tas de niveaux de la société et qu'elle ne bénéficie pas aux humains.
Très bien. Tu précises aussi que toi, tu avais fait ces métiers-là parce que tes revenus de journaliste n'étaient pas suffisants. Avec le recul, j'ai pu t'entendre dans d'autres émissions ou podcasts dire « Est-ce que j'ai assez activé mon réseau à l'époque ? Est-ce que j'avais déjà du mal à me dire « Il va falloir que ce soit un autre travail à l'intérieur de mon travail, au-delà d'écrire, faire des enquêtes, il faut aussi que je cherche ce réseau parce que sinon je vais pas m'en sortir. » Est-ce que tu as pris du recul par rapport à ça, sans dire que c'était de ta faute, hein, mais il a fallu effectivement que tu ailles chercher l'argent là où tu le pouvez le trouver, quoi.
Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est assez clair pour moi, dans le sens où, voilà, c'est un métier, le journalisme, qui m'a toujours fermé ses portes. C'est un métier où, voilà, quand on est déjà une femme, c'est assez compliqué. Quand on est une femme racisée, c'est encore plus compliqué. Finalement, le seul endroit où j'ai pu avoir du travail sans piston, sans connaissance, sans réseau, c'était le grand magasin dans lequel j'ai travaillé. C'était la toute première fois de ma vie où j'étais embauchée sans passer par quelqu'un que je connaissais. Ça m'a fait vraiment une espèce d'électrochoc parce que voilà un milieu, le journalisme, qui me faisait comprendre qu'on ne voulait pas de moi à cet endroit, alors que dans ce grand magasin, on m'a tout de suite fait comprendre que voilà, le fait de parler plusieurs langues, tout ça, c'était hyper intéressant. Puis pour la clientèle du Moyen-Orient, c'est toujours bien de voir des femmes maghrébines, tout ça, ils adorent et tout. Et quelque part, on me faisait comprendre ma place dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Bah oui, tu seras très bien là à servir les riches plutôt qu'aller t'exprimer, faire des enquêtes comme tous les journalistes.
Oui, d'ailleurs, dans ce grand magasin, tu as pu constater que parmi tes collègues, il y avait beaucoup de personnes qui étaient diplômées, avaient un parcours, avaient eu cette possibilité-là. Mmh. Et le point commun, c'est que c'était quasiment toutes des personnes racisées. Ça, c'est un constat qui doit être assez éclairant, de dire, mais est-ce qu'on ne serait pas un peu recruté pour ça ? Est-ce que vous avez pu en parler entre vous ? Pas du tout.
Ah oui, moi, j'avais constaté que dans mon équipe, les seules personnes blanches, c'était souvent des étudiants qui ne restaient pas là, qui en général n'étaient là que pour les vacances d'été et qui après revenaient tous les ans pendant la durée de leurs études. Et oui, effectivement, j'en avais parlé avec plusieurs de mes collègues qui, justement, étaient diplômés. J'avais une collègue qui était hongkongaise et qui était journaliste, justement, aussi, et qui, à Londres, pouvait parfaitement exercer cette profession de journaliste, mais qui s'est retrouvée à vivre en France parce qu'elle s'est mariée avec un Français et qui s'est pris cette réalité en pleine face quand elle s'est rendue compte que la seule place qu'on pouvait lui proposer, c'était ça, c'était de travailler dans un grand magasin, finalement.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Elle y est toujours, oui.
Bon, là, il y a un sentiment de déclassement, forcément.
Complètement, oui, c'est ça.
Tout ça par amour. Alors, je ne suis pas en train de critiquer, mais c'est, y a
mais c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais retourne à Londres, largue-le, c'est bon, il ne vaut pas le coup.
Après, on fait des choix de vie, des choix amoureux.
Oui, bien sûr.
On lui souhaite tout le bonheur du monde et peut-être de trouver sa voie professionnelle par la suite.
Aussi.
Alors, ce livre, c'est une pierre à l'édifice et il vient, on pourra y revenir, mais juste après, un livre qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. On va y revenir parce qu'il y a eu... on peut dire une mini polémique qui n'est pas de ton fait, mais on pourra y revenir. Donc, rivalité non féminin, une lecture féministe du mythe. Alors là, ça c'est un sujet, je m'adresse aux 83% d'auditrices qui nous écoutent. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois dans votre vie, on ne vous a pas dit que les femmes entre elles, oulala, c'est compliqué, on ne peut pas se faire confiance les unes les autres. La sororité, ce n'est pas forcément un mot qui est arrivé dans notre vocabulaire très tôt, dans notre construction. Donc, qu'est-ce qui fait que ce livre, tu as eu envie de l'écrire dans un premier temps ?
Moi, ça part toujours d'expérience personnelle. Je suis incapable d'écrire sur quelque chose que je n'ai pas vécu. Et je préfère me cantonner au sujet que je connais. Et certains feraient bien de prendre exemple.
C'est mieux.
Donc, oui, voilà, c'était plusieurs expériences personnelles au travail, mais aussi dans ma vie amoureuse, que j'ai trouvé vraiment très, très, très frappante et très parlante. Puis, j'ai voulu, en fait, lire sur le sujet. Et du coup, j'ai commencé à chercher de la littérature. Et en fait, c'était toujours des... Soit c'était des livres un petit peu psychanalysants, qui étaient un petit peu austères, un petit peu difficiles, soit c'était des trucs hyper misogynes, et j'avais absolument pas envie de lire ça. J'avais vraiment envie de faire une synthèse de tout ce que j'avais vécu, plus des références culturelles, je voulais quelque chose d'accessible, de pop. Et du coup, je me suis dit que si ce livre-là n'existait pas, je pourrais me pencher sur le sujet, et grâce au Covid et au confinement, j'ai pu me permettre de me lancer.
Et de proposer ce projet donc à plusieurs maisons d'édition.
Ouais.
Alors comment on fait ? On a un pitch, on les contacte et on voit ce que ça donne ?
Alors moi, ouais, voilà, c'est tout simplement ce que j'avais fait parce que j'avais aucun contact dans l'édition. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé mon synopsis, que ça correspond plus ou moins à ce qu'il y a écrit sur la quatrième de couverture. Et puis j'ai fait un chapitrage, j'ai lu pendant un an, j'ai lu, j'en ai bouffé de la rivalité féminine, j'ai lu des livres, j'ai regardé des films, des séries, j'ai écouté des chansons, enfin ça n'arrêtait pas, je ne pensais qu'à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, à partir d'un moment, je me suis dit que j'avais énormément de matière. À partir de cette matière, j'en ai tiré un plan pour mon livre. J'ai proposé voilà ce plan. J'ai fait une mini biographie, enfin une mini autobiographie même, que j'ai proposé à tout un tas de maisons d'édition. Et puis voilà quoi, il y a eu des retours. Et
là, on négocie. Ouais, je suppose que ça se joue aussi là-dessus au niveau financier.
C'est assez difficile de négocier quand on n'est pas connu, quand on sort un petit peu de nulle part. Moi, j'avais même pas un nom de journaliste connu. On m'a bien fait comprendre que j'étais pas forcément en mesure de négocier un peu. J'ai pu négocier avec cette maison d'édition là qui s'est montrée très ouverte et qui était OK pour parler chiffres. Mais sinon, ouais, c'est pas forcément évident pour tout le monde au départ. Ouais.
Est-ce que t'es passée par un agent ou une agente littéraire ou pas du tout ?
Non, j'étais toute seule.
Voilà, donc ça c'est une idée que je transmets parce que j'ai eu plusieurs autrices qui avaient fait un premier livre. Toi, tu as eu la chance et le courage aussi de faire deux livres coup sur coup. Mais c'est vrai que la première fois quand on se lance, on part un peu dans l'inconnu. Quand on n'a pas de relation, moi, ce que j'avais fait, dans un premier temps, étant une grande lectrice, je lis jusqu'au bout même les remerciements et puis les notes aussi sur les réseaux sociaux. Merci à machin, merci à mon agent. Je fais « Ah bah tiens !» Et donc, je découvre, et je vous mettrai les références, c'est un métier. Comme au cinéma, il y a des agents, comme dans la série 10%. Et ils sont là pour négocier, pour essayer de trouver le meilleur deal, pour lire les contrats que nous, on ne comprend pas bien avec des droits d'adaptation à l'étranger. Enfin, déjà, si on arrive à faire un livre, on est déjà content.
Ouais, mais c'est ça.
Et ils ont cette expertise. Donc, moi, je vous recommande vraiment de vous renseigner le plus possible. Et là, je reprends les mots de Mabrouk Rachedi, qui est un auteur et un ami, j'espère, qui me dit la première chose à se dire avant de contacter qui que ce soit, t'as envie vraiment de le faire, ce livre ? Parce qu'il va te prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, d'énergie. Tu vas penser qu'à ça. Quand tu sortiras le soir, tu diras, bah là, je devrais être en train d'écrire. Donc, est-ce que vraiment tu as envie de le faire ? Et est-ce que tu as envie de le faire maintenant ? Donc, c'est vrai que moi, c'est une proposition qui m'a été faite. C'était pas le bon moment. Et peut-être que ce sera le bon moment un jour. Mais aujourd'hui, je suis ravie d'être une lectrice, d'être une podcasteuse. Mais pour l'instant, autrice, ça me paraît une montagne. Mais tu disais dans un podcast, justement, que toi, tu aurais pu le faire plus tôt, ce livre. Mais tu avais plein d'idées en tête, tu te mettais des bâtons dans les roues, comment tu voyais les choses ?
J'avais quand même bien conscience que c'était un milieu très fermé, que c'était très difficile de l'intégrer. Enfin, j'avais déjà été échaudée par le journalisme, donc j'ai bien pris le temps de réfléchir et je me suis dit que ça servait à rien de se lancer si je connaissais pas quelqu'un dans le milieu, si j'avais pas un agent. Puis vraiment, le Covid a rebattu toutes les cartes, quoi. Et puis surtout, le fait d'arriver en 2020, moi j'ai été diplômée en 2010 et puis j'arrivais en 2020 et je me suis dit, oh mon Dieu, mais 10 années ont passé et j'ai des tas d'idées que je n'exploite pas. Ça a été un peu un électrochoc et je me suis dit non, mais je vais commencer à travailler là-dessus, c'est pas possible. Et puis au pire, ça marche pas et puis voilà quoi. Et j'aurais juste perdu un peu de temps, j'aurais appris des trucs au passage. C'était quand même tout bénef pour moi.
Et alors justement, ce livre, il a eu cet accueil. Donc là, on va parler du cas Bad Buzz, pas pour toi, Bad Buzz pour la journaliste. Donc il s'agit de Ambre Chalumeau, qui est une journaliste de l'émission Quotidien sur TMC, animée par Yann Barthès. Et alors, ce qui s'est passé, bon, je vous mettrai les références avec les bons liens, parce qu'il y en a qui résument, qui modifient. On va prendre peut-être le plus correct. En gros, Ambre a décidé de parler du sujet de la rivalité féminine, mais sans jamais te citer ou citer le livre, alors que clairement, les références qu'elle citait venaient du livre et elle avait demandé à le recevoir. Donc, il y a la question de bah, pourquoi elle ne te cite pas. Et donc, toi, tu as réagi. Je vais te laisser l'expliquer comment ça s'est déroulé.
Bah ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment dans une incompréhension totale. Elle était allée jusqu'à même montrer la photo qui orne la couverture de mon livre. Pour moi, voilà, je ne comprenais pas comment on pouvait se servir autant en pensant justement qu'on n'allait pas se faire taper sur les doigts, quoi. Moi, je suis très attachée à la justice. Je suis très attachée au fait de rendre à César ce qui est à César. Enfin, je fais hyper attention à ça. Dans mon livre, absolument tout le monde est crédité, mais genre la moindre petite virgule. Enfin, il n'y a pas de négociation autour de ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un post sur Instagram tout simplement pour dire que voilà, je comprenais pas ce qui s'était passé et que c'était pas normal. Ce post a été énormément repris. Ensuite, j'ai cru comprendre que c'était la guerre sur Twitter aussi parce que bon, moi, je suis pas sur Twitter. Hein. Je trouve que c'est un environnement trop violent. C'est un peu le cloaque de Satan, j'avais pas envie d'y être. Et en fait, on me rapportait tous les tweets qui étaient postés à ce sujet. On me disait que oui, voilà, tout le monde est en train de te défendre, tout le monde prend ton parti, ils se font tomber dessus, là, quotidien, tout ça. Donc, moi, ça m'a un petit peu dépassé tout ça, parce que moi, j'avais posté ça. À l'époque, j'avais 500 abonnés sur Instagram. Mmh. Donc, c'était vraiment pas grand-chose. Donc, j'imaginais vraiment pas que ça aurait un retentissement comme celui-là. Et puis, en deux jours, je me retrouve avec 10 000 abonnés. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais là, oh mon Dieu, mais ça me dépasse un peu tout ça. Le Figaro qui se penche sur le sujet. Enfin, tout le monde se penche dessus et moi, je suis un peu perdue là-dedans. Moi, à la place de quotidien, je pense qu'il y avait vraiment un moyen très, très simple de se tirer de ce mauvais pas. C'était de dire tout simplement, bah oui, on a manqué de temps, on est désolé, voilà le bouquin. Et puis, hop, c'est réglé. Mmh. Mais ils ont préféré nier jusqu'au bout et dire que non, les références qui sont dans le bouquin, je les ai pas inventées, elles appartiennent à tout le monde, tout ça. Avec une façon assez mesquine de le faire, des petits commentaires un peu désobligeants, déplacés. Je pense que ça s'est plutôt retourné contre eux parce que voilà, beaucoup de gens n'étaient pas convaincus par ces explications-là. Et voilà, bad buzz pour eux finalement. Voilà.
Et sachant que quotidien, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une émission qui dépasse régulièrement en termes d'audience le 20h de TF1. Donc oui, il y a un impact, et oui, ça aurait été positif pour toi, mais aussi pour elle, de simplement dire, bon, bah, mea culpa, effectivement, voilà ce qui s'est passé. Ça nous arrive parfois de faire des erreurs. En tant que journaliste, on n'est pas infaillible non plus. Donc voilà, et bah non, il y a ce truc de, j'allais dire, de white club, parce qu'il y a un peu ce truc-là, de, on se protège entre nous, on ne va pas reconnaître la faute. La question se pose toujours de, aurait-il agi comme ça si ça avait été une autrice blanche? On verra au prochain Bad Buzz.
Ouais, on peut même se demander s'ils auraient agi comme ça si j'avais été un homme aussi. Mm-hmm. Dans le sens où j'ai vu qu'en fait, cette histoire, je trouvais qu'elle prenait des proportions énormes par rapport à ce que c'était. Certes, c'était grave, mais j'ai trouvé que voilà, la couverture médiatique était absolument ridicule. C'est-à-dire que c'était vraiment excessif, c'était beaucoup trop. Et pour moi, c'était vraiment une illustration de ce que j'explique dans le livre, à savoir que vraiment, il y a une passion pour cette idée de mettre les femmes en opposition. Ouais. Là, d'un seul coup, on était deux femmes. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui, justement, pour me défendre, faisaient des espèces d'opposition entre moi et Ambre Chalumeau, en la présentant comme une nantie et moi comme une pauvresse, ce qui n'est pas tout à fait exact en plus. Il y a vraiment eu ce truc où on nous a opposés et voilà, il y avait d'un côté, il y avait la vérité, il y avait le mensonge, il y avait la justice. Enfin, c'était vraiment, pour moi, j'avais envie de dire c'est QFD à la fin de cette histoire. C'était vraiment, bah, vous aimez tellement ça, avoir les femmes en opposition.
C'est l'illustration parfaite, en fait, de ton livre.
Oui, c'est ça. C'était une bonne promo, quelque part.
Est-ce que tu as vu une différence, du coup? Est-ce que oui,
complètement.
Ça a décollé
ou... Complètement, ouais, vraiment. Je ne veux pas sembler cynique et je ne veux pas qu'on pense que voilà, c'est quelque chose que j'ai réfléchi au départ, parce que sincèrement, je ne pensais vraiment pas que ça dépasserait les limites de mes 500 abonnés. Mais oui, il y a eu un effet sur les ventes, effectivement, parce que le livre, quand il est sorti, il était bon, il a eu une sortie assez discrète. Il y avait eu un petit succès d'estime, pas mal de presse, mais au final, ça ne s'est pas vendu. C'était pas Mona Cholet, quoi.
Oui, bien sûr.
Et puis, à partir de cette polémique, bah, ça a mis la lumière dessus et il a commencé à se vendre à ce moment-là. Et depuis, les ventes sont stables, constantes. Elles ne sont pas faramineuses. C'est ni Mona Cholet, ni Éric Zemmour. Mais voilà, ça a permis d'être visibilisé. Ouais.
Bon, bah voilà, mektoub, hein, entre guillemets. Je pense que
ouais,
ça...
Ouais, à quelque chose, malheur est bon, quelque part.
Voilà. Dans ce livre, il est question, bien sûr, de patriarcat, parce qu'on est complètement là-dedans, de pourquoi les femmes ont été mises en opposition. Et tu dis aussi que, dans le cadre amoureux, cette rivalité féminine est très poussée. On explique aux petites filles déjà que l'objectif de vie, c'est de rencontrer quelqu'un, que sinon elles ne seront pas complètes. Et alors, je voulais revenir sur cette phrase qui est censée être un compliment dans la bouche des hommes, là, dans un cadre hétéro. C'est quand ils nous disent « Mais toi, t'es pas comme les autres femmes. » Est-ce que tu peux développer? Parce que c'est vrai que ça, moi, je ne comprends pas, quand je reçois cette phrase-là, je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait.
En plus, cette phrase-là, j'ai l'impression que tous les hommes la sortent à absolument toutes les femmes. Donc, au bout d'un moment, on se demande, mais effectivement, si vous êtes aussi nombreux à utiliser cette technique, qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de vous? Et surtout, on est tellement nombreuses à ne pas être comme les autres, donc finalement, ça perd un petit peu de sens. Oui, c'est vraiment une phrase que je pense qu'on a toutes entendue, d'une certaine manière. Je la trouve assez inquiétante parce que, voilà, j'ai mis du temps à y penser, pas parce que voilà, j'y pensais pas spécialement au départ, mais en y réfléchissant, je me disais, en quoi c'est flatteur de ne pas être comme les autres femmes? En quoi c'est quelque chose qui devrait nous faire nous sentir bien d'être voilà validé par un homme qui nous explique qu'on n'est pas comme les autres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis comment? Je ne suis pas comme les autres. Enfin, quand on y pense, c'est vraiment très très malsain, très très toxique. Et à partir du moment où on commence à le voir, ça fait réfléchir à beaucoup de niveaux. Mmh. Ça fait pas mal remettre en question voilà les rapports amoureux et
la façon dont on est vu finalement par les hommes et la façon dont on réagit quand on est validé d'une certaine manière par un homme qui nous plaît ou pas. Qu'est-ce que ça change justement dans notre psyché? Qu'est-ce que ça change dans la façon dont on se voit soi-même? C'est assez dangereux, je trouve.
Oui, puis je pense que l'inverse n'est pas vrai. Je ne crois pas que les femmes disent aux hommes qui leur plaisent pour les séduire « t'es vraiment pas comme les autres hommes ». Je ne suis pas sûre que ça marcherait.
Moi, ça ne m'est jamais arrivé de dire des trucs comme ça.
Enfin, moi non plus. Alors, avoir des compliments, peut-être dire... ça oui, ça, je pense qu'on est, on est capable de faire ça. En tout cas, moi, j'ai pu le dire. En étant très sincère, t'es le plus beau.
Oui, bien sûr, t'es unique, t'es à part. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas cette idée de comparaison, finalement. Je veux dire, on peut dire t'es le plus beau à mes yeux, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on compare à d'autres personnes. Mm-hmm. Alors que quand on dit tu n'es pas comme les autres femmes, là, c'est vraiment quelque chose... À toi, je t'ai pioché dans la ligne, tu tranchais, t'étais vraiment pas comme les autres. C'est assez particulier. Ça fait un peu penser au prince dans les contes de fées qui choisit celle qui finalement est un peu à part. Et là, quelque part, on est choisi. Ce type-là nous dit, bon, parmi un million de femmes, c'est toi que j'ai remarqué. T'étais très différente, tu ressortais, tu irradiais. C'est hyper toxique. C'est franchement toxique. En quoi c'est flatteur de ne pas être comme les autres femmes finalement?
Ouais, effectivement, sortir du lot, tu précises que c'est aussi parce qu'on nous fait croire, alors moi j'ai la faiblesse de croire que les statistiques sont à peu près correctes, qu'il y aurait plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Alors je vais vous mettre les ressources, en fait, oui et non, en fait ça dépend. Il y avait un article de Jean-Laurent Cassellis dans Slate qui m'avait particulièrement marqué, parce que bon, c'était des chiffres INSEE, où il prenait par ville. Où là, on voyait qu'il y avait un vrai différentiel quand on était à Brest, à Toulouse, à Paris, et qu'il y avait des villes où, entre guillemets, il n'y avait pas assez de femmes célibataires, parce que à Brest ou à Toulouse, il y a beaucoup d'ingénieurs, l'aéronautique, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de femmes ingénieurs à ce moment-là. Et donc, il y avait un décalage. À Brest, c'est peut-être aussi d'autres métiers. C'est souvent lié aux professions, et parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui vont essayer de partir de leur région pour trouver mieux ailleurs. Et inversement, on va avoir à Paris, on va concentrer plein de métiers, plein de professions. Alors là, il y a plein d'explications possibles, mais là, il y a une statistique, là, c'était IFOP, de 2018, qui disait qu'il y avait plus de femmes célibataires à Paris intramuros que d'hommes célibataires dans une certaine tranche d'âge. Et c'était plus, vraiment plus. C'était deux fois plus. Et là, on se dit, ah bah oui, en fait. Donc ça dépend, effectivement. Mais toi, pour toi, cet outil-là, statistique, qu'on utilise, c'est un peu pour dire aux femmes, attention, on est nombreux sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'hommes, hâtez-vous parce que bah, vous allez arriver trop tard et vous n'allez pas trouver l'homme qui vous conviendrait.
Oui, c'est ça. C'est une information qui, au départ, est neutre, c'est un fait, qui est vraiment souvent utilisée comme une espèce d'arme pour rappeler aux femmes qu'il ne faudrait pas qu'elles soient trop exigeantes hein, parce qu'on est quand même nombreux sur le marché et voilà, on part perdante à l'avance parce qu'il n'y aura pas assez de prix pour tout le monde.
Oui, ou ce qui va nous rester, moi je reprends la phrase de ma mère que j'utilise souvent, quand tu arrives trop tard au marché, il ne reste que des fruits pourris. Alors, ça ne veut pas dire que...
c'est terrible.
C'est horrible, mais bon, en gros, c'est une façon de dire aussi qu'on oui, peut garder nos critères, parce qu'il y a aussi beaucoup de critiques qui vont être faites aux femmes célibataires en particulier, leur dire, mais en fait, tu es trop difficile, c'est pour ça que tu ne trouves pas.
Mais ça, tu vois, c'est une phrase de ta mère, donc la génération précédente, mais moi, ça m'arrive d'entendre des filles de mon âge, voire plus jeunes, qui vont tenir des propos du type « Ah, mais passé un certain âge, de toute façon, les mecs bien, ils sont tous casés, toi, t'as plus qu'à te rabattre sur le premier qui passe. » Et je trouve ça épouvantable.
Bah oui, ça veut dire aussi qu'en termes d'estime de soi, on se dit que dès lors qu'un homme nous prête attention, c'est déjà un bon signal, alors qu'il faudrait partir de la base. Le célibat n'est pas une situation détestable, ou alors si vous vous trouvez vraiment pas bien dans cette situation, il y a un truc à faire. Et je voudrais revenir sur ce passage que j'ai trouvé très marquant, et tu m'as aidé sans le savoir. Alors on va ouvrir la parenthèse confidence intime. Il y a un passage où tu évoques donc un épisode de transfert, où une certaine Philomène, qui en fait c'est moi, je précise que je n'ai jamais choisi ce pseudo, c'est la rédaction de Slate qui l'a décidé, où j'avais décidé donc de partager de façon anonyme, donc là je lève l'anonymat, mais c'est bon, c'est il y a 3 ans, j'assume le truc, où je racontais donc comment, via Instagram, j'avais pu discuter avec un artiste et ensuite le rencontrer et avoir donc une relation sexuelle, parce que j'ai découvert un peu ça après, que en fait tout acte sexuel est potentiellement une relation sexuelle. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu pénétration que ça n'est pas une relation sexuelle.
Bien sûr.
Ou alors c'est la définition de Bill Clinton qui estime que bah, lui, il n'a pas eu de relation sexuelle en fait, parce qu'il a uniquement eu des fellations. Parenthèse refermée sur le mot. En lisant donc ton analyse, je voulais te remercier parce que moi, ça m'a aidé de lire la distance que toi, tu avais par rapport à ce récit en disant, bah, là, elle est complètement, cette personne qui raconte, elle est dans le schéma complet d'une femme qui se compare à d'autres femmes qui pourraient être des groupies. Et elle, elle se sent différente d'une groupie, alors qu'en fait, j'avais absolument ce comportement d'être un peu fascinée par quelqu'un de connu et d'être choisie par cette personne connue. Il y a un sujet de grossophobie, donc je vous mettrai les extraits sur le sujet, comme ça vous comprendrez mieux. Mais en gros, clairement, aujourd'hui, je ne ferai plus ce genre de choses, c'est-à-dire aller rencontrer un homme qui me demanderait de venir chez lui pour pratiquer une fellation en sachant qu'il ne m'embrasserait pas. Bon, ça, je l'ai découvert sur place, hein. Je ne savais pas à l'avance, ça aurait peut-être joué dans ma décision. Mais sur le papier, quelqu'un qui me dit « tu vas t'occuper de moi et moi, je ne ferai rien à part t'ouvrir ma porte et avoir une discussion avec toi et éventuellement te proposer de te payer royalement le VTC pour rentrer chez toi ». Voilà le gros de la proposition. C'est quelque chose que je ne ferai plus aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de l'estime de soi, de comment je me sens en tant que femme, en tant que personne, en tant que femme grosse, que j'ai droit au respect comme d'autres personnes et que je peux plaire comme je suis et que je n'ai pas accepté ce type de conditions sous prétexte que bah, c'est quelqu'un de connu, c'est quand même super qu'il te choisisse malgré ton poids, malgré aussi, ça je l'avais précisé parce que c'était féministe pour moi, ça l'est toujours, j'ai ce choix d'avoir un pubis qui n'est pas épilé de façon...
Un pubis de femme adulte, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je le décrivais. Bah, c'est-à-dire que je fais ce choix-là. Il y a des hommes qui, dans un cadre hétéro, encore une fois, des hommes qui vont dire, mais moi, si t'es pas épilé intégralement ou ticket de métro, je refuserai toute relation sexuelle avec toi. C'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui en 2024. C'est à vous, mesdames, de dire, et aussi à messieurs, parce que parfois, on l'impose aussi dans une... J'ai entendu des témoignages LGBT qui étaient dans le même sens.
Mmh, bien sûr.
Où on demandait des choses sur le corps de l'autre et que sinon, il n'y a pas de relation sexuelle possible. Là, c'est à vous de voir. Si vous vous sentez mal dans votre peau au point d'accepter toutes les conditions de l'autre, il y a peut-être un sujet. Peut-être il serait intéressant d'y réfléchir, de peut-être consulter. Moi, à ce moment-là, j'étais plutôt dans le côté bah, moi, j'assume mes poils comme ils sont. Il prend pas. À aucun moment, je me suis dit, bon, bah, pour le séduire, je suis capable de faire ça. Bah non, parce que de toute façon, j'étais déjà dans la base de je suis une femme grosse, je ne vais pas lui plaire. Pour revenir à ce passage-là, bah, du coup, j'ai l'honneur d'être dans ton livre, je suis très flattée. Mais qu'est-ce qui fait que cet exemple était vraiment symptomatique et pourquoi tu as voulu l'utiliser?
Alors, déjà, moi, cet épisode-là, je suis tombée dessus un petit peu par hasard, parce que j'écoutais chaque nouvel épisode qui tombait. Là, j'écoutais et puis j'ai commencé à prendre des notes directement parce que j'ai trouvé ça extrêmement... Déjà, j'ai trouvé l'histoire assez violente. Même si, évidemment, toi, tu semblais pas le prendre comme ça. Évidemment, chacun a un ressenti différent par rapport à ce qu'il vit. Et effectivement, parfois, ça met un petit peu de temps à comprendre qu'on a vécu quelque chose qui n'était pas normal. Et là, c'était vraiment transparent, cette idée de lui, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, tu le précises, qui sort souvent avec des mannequins, des choses comme ça. Donc, quelque part, il est dans une espèce d'Olympe, quelque chose d'inatteignable pour toi. Lui, c'est une espèce de dieu. Et toi, tu es la simple mortelle qui passe par là. Il te tend la main. Donc, toi, tu y vas. Et moi, j'étais vraiment, vraiment troublée de la violence de ce qu'il t'imposait. Parce que c'était lui qui définissait absolument tous les contours de cette rencontre. C'est lui qui prenait toutes les décisions et toi, finalement, bon, bah, tu les acceptais. Quelque part, est-ce qu'on peut te blâmer pour ça quand on sait voilà, toute cette culture justement de la célébrité, toutes ces choses-là où on nous fait bien comprendre que voilà, c'est pas des humains comme nous, ils font pas caca marron. c'est vraiment quelque chose d'assez prégnant et je sais pas si moi-même, si j'avais rencontré, je sais pas, un homme pour qui j'ai une immense admiration, est-ce que je serais pas tombée là-dedans aussi, même si à l'époque j'étais déjà un petit peu critique par rapport à ça. Mais l'anecdote m'a semblé très très violente. Et je pense que j'étais pas la seule à ressentir ça parce que je suis partie regarder un petit peu les commentaires sur les réseaux sociaux et la plupart des femmes étaient un petit peu perplexes de ce qui se passait là. Et c'est là, mais en fait, elle est censée faire quoi? Le remercier, ce type, de lui avoir accordé un peu de temps. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'important qu'on tenait là dans cette idée de d'être choisie parmi d'autres, d'être choisie au même titre que des mannequins ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire à l'estime de soi d'une femme? Surtout une femme qui est considérée comme pas étant dans la norme esthétique. Enfin, moi, je te trouve très jolie, mais voilà, je veux dire, il y a quand même un truc, tu le dis toi-même, t'es une femme grosse. Et c'est quelque chose qui n'est pas valorisé dans notre société. C'est le pire qui puisse arriver à une femme. Voilà.
Ah oui.
C'est complètement aberrant et c'est complètement délirant.
moi, j'ai trouvé vraiment assez brutal ce qu'il était en train de t'imposer. Et forcément, ça avait sa place ici parce qu'il y avait vraiment cette idée de te comparer aux autres femmes, de te faire comprendre que voilà, t'as quand même de la chance quelque part. Donc, puisque t'as de la chance, ben moi, je vais faire le strict minimum, quoi. C'est-à-dire rien, enfin, d'après l'histoire que tu racontes.
Oui, et puis c'est le mot problématique que tu as utilisé, où je me suis dit, mais oui, il y a des choses problématiques. Et notamment, je cite Glenn Close, parce que c'est l'image, dans Liaison Fatale, l'image de, bah, qui est totalement misogyne. Hein,
complètement.
De la femme qui devient folle. Mais pourquoi elle devient comme ça? C'est le comportement en face de Michael Douglas aussi qui la rend comme ça. Et en fait, je pense que peut-être on aurait une autre lecture si on le revoyait aujourd'hui. On dirait, mais en fait, il lui parle mal, il se comporte mal, il n'est pas clair.
Il est archi-toxique, il n'est pas clair, il ne sait pas ce qu'il veut. Enfin, c'est voilà. Quand même pas sérieux.
Et à l'époque, on aurait dit, mais non, c'est elle la sorcière. C'est elle qui est méchante, c'est elle qui fait du mal aux gens, c'est elle qui est dangereuse.
C'est elle qui a tué le lapin.
Voilà, c'est... alors ça, attention aux animaux, effectivement. Donc, il y a ce sujet de, moi, je ne serai pas comme elle. Je ne serai pas comme les autres femmes, sous prétexte qu'ils peuvent être méchantes, agressives, problématiques. Et en fait, j'aurais été en droit aussi d'imposer mes limites.
Bien sûr.
De dire ça, ça ne me convient pas. Et quand il s'est agi de me proposer un deuxième rendez-vous, là encore, je suis dans la mécanique de « Oh, il me repropose !» Mais quelle chance alors ! Mais c'est pour me proposer exactement la même chose. Il n'y a même pas une progression. Mais j'étais tellement contente quand même. Moi, je n'ai pas de regrets dans la vie. Je pense qu'on fait des expériences, qu'on apprend de tout. Mais aujourd'hui, si je pouvais transmettre à des personnes plus fragiles, peut-être plus jeunes, surtout plus jeunes parce qu'elles sont parfois dans ce miroir aux alouettes des paillettes, attention, surtout les beaucoup plus jeunes, méfiez-vous des personnes sur les réseaux sociaux, y compris celles qui sont un peu connues, on l'a vu avec Norman et plein d'autres.
Bien sûr.
Ce sont des agresseurs, en fait. Donc, méfiance. Et je vous mets toutes les références et toutes les associations qui pourraient vous aider si vous tombez dessus. Tu as évoqué ton féminisme et comment il s'est développé assez tôt. Alors, je veux bien que tu nous repartages cette anecdote du masculin qui l'emporte sur le féminin et qui t'a choqué.
Oh, ouais, ça, c'était brutal. Ouais. J'avais, l'âge où on apprend à lire, donc 6 ans. Et la maîtresse nous avait expliqué que le masculin l'emportait sur le féminin, quoi qu'il arrive. Et moi, je commençais à demander, même s'il y a 100 femmes, oui, même s'il y a 100 femmes, même s'il y en a 1000, mais c'est pareil. Pour moi, c'était absolument scandaleux. Et ce qui m'avait encore plus scandalisée, c'était la réaction des garçons à côté, qui, bon, c'est des petits garçons de 6 ans, mais ils ont tous commencé à crier « Ouais, masculin, ouais, ouais !» Et ça m'avait mise dans une rage folle. Ça a été un petit déclic, quelque part. Alors, bien sûr, c'était pas quelque chose qui était articulé politiquement, c'était ça vaut ce que ça vaut, le féminisme d'une petite fille de 6 ans, mais c'était déjà un point de départ. Et puis, il y a aussi le fait que j'avais quand même conscience que ma mère se tapait l'essentiel du travail domestique et, j'avais quand même conscience que c'était pas très enviable comme situation.
C'est à ce moment-là que tu te dis, les garçons et les filles, visiblement, on est traités différemment.
Mmh, ouais.
Et dans ensuite ton parcours, et on le voit dans tes livres, il y a eu ce sujet de le féminisme aujourd'hui, il est porté par les œuvres culturelles. Donc, tu évoques Scheherazade, effectivement, qui est aussi une figure féministe, puisqu'elle a pu survivre.
Mmh.
Pour autant, on nous montrait plutôt des choses où c'était la princesse dans les contes classiques non orientaux, entre guillemets. Et ensuite arrive, c'est vrai que c'est le discours qu'on découvre quand on commence à se lancer dans la découverte du féminisme, on est plutôt dans du féminisme blanc et bourgeois. Et ça, c'est quelque chose que tu évoques et critiques aussi dans ton livre. Est-ce que tu peux développer ?
Oui, alors déjà par rapport, tu vois, tu faisais référence aux contes orientaux. J'ai toujours eu l'impression que c'est assez difficile quand on est en France, quand on est une femme qui a vécu toute sa vie en France, qui a grandi en France, qui est née, du moins dans ma génération à moi, c'était quand même assez difficile de devenir féministe parce qu'on baigne tellement dans une espèce de culture du romantisme. C'est vraiment la France, pays de l'amour, de la romance, shabadabada, quoi. Et c'est assez difficile, je pense, de s'extirper de ça parce qu'on est vraiment trop exposé à des images de romantisme, de couple, de perfection. Paris, la ville la plus romantique du monde, la capitale des amoureux. Enfin, c'est assez difficile de s'extraire de ça, vraiment. Et je pense que c'est bien de s'exposer à d'autres références culturelles qui, justement, montrent que, voilà, il y a des cultures où le couple n'est pas forcément le centre de la vie des femmes. Et par rapport au féminisme bourgeois, effectivement, je pense que c'est assez clair aujourd'hui où il y a d'autres types de féminisme qui commencent à émerger. Voilà, on parle d'afroféminisme, on parle d'intersectionnalité. On se rend bien compte que quand on rentre pas dans certaines cases, finalement, on n'est même pas toujours une femme. Bah là, je suis en train de citer Sojourner Truth, je crois, qui est l'autrice de cette célèbre phrase « Ain't I a woman » qui a été reprise par Bell Hooks, qui dit, voilà, ne suis-je pas une femme, finalement? Ou c'est vrai que quand on est une femme racisée, parfois, on doit prouver quelque part sa féminité parce qu'on ne correspond pas au canon de la féminité traditionnelle européenne, occidentale. Et du coup, voilà, c'est assez difficile de trouver sa place, justement, dans ces milieux-là, en tant que personne racisée, avec une expérience assez différente, sans tomber dans une espèce d'extrême où on va nous accuser d'être trop radicale, d'être trop excessive, d'être trop agressive, trop violente. Ça, c'est un truc dont je parle dans le livre quand on évoque les larmes blanches et à quel point c'est effectivement une arme pour beaucoup de féministes blanches pour essayer de défendre un petit peu leur bout de gras et empêcher les femmes racisées et précaires, justement, de faire leur place dans ce milieu-là.
Oui, puis les femmes blanches peuvent être amenées à reproduire un système de domination. L'une des rares femmes que j'ai entendu parler de ça avec une certaine transparence, c'est Charlotte Bien-Aimée dans un podcast à soi, où elle commençait le podcast en disant « Je suis au micro, en train d'enregistrer, parce qu'une femme racisée est en train de s'occuper de mes enfants. » Qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Oui, c'est vrai finalement qu'on se rend compte, ça je l'évoque aussi dans le livre, que ce qu'on appelle le HSBC, c'est-à-dire l'homme straight blanc cis, finalement cet homme-là, ça peut très bien être une femme, parce que voilà, certaines ont vraiment utiliser les mêmes mécanismes finalement d'oppression des femmes racisées notamment, et qui finalement limitent le féminisme à leur propre réussite personnelle. Là où on aurait tendance à croire naïvement qu'il s'agit plutôt d'un combat collectif et que voilà, s'il y en a une qui est libérée, les autres doivent l'être aussi. On a pu aussi s'en rendre compte avec les scandales qu'il y a eu autour de certains studios de podcast, où on s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient exploitées, qu'elles subissaient d'énormes violences, alors que voilà, ces podcasts-là se présentaient comme progressistes, féministes. Ça, c'est sans fin, malheureusement.
Alors après, là, c'est vrai que c'était des logiques, entre guillemets, de start-up. Donc, moi, je trouve ça très intéressant à suivre, je dirais presque sociologiquement, parce qu'on se rend compte que c'est souvent des femmes qui se lancent. Alors, c'est pas n'importe quelle femme qui peut lancer son studio. C'est des femmes qui ont quand même déjà une assise financière, qui peuvent compter sur certains soutiens. Et elles vont reproduire les schémas, effectivement, de domination et de non-respect du code du travail de base. Tu dis oui, mais parce qu'on est des passionnés, et puis c'est notre boîte, et c'est notre bébé. C'est le même discours que des start-upers blancs. Et là, les gens vont se dire, on va réinventer la roue. Il faudrait qu'on se mette en collectif à l'intérieur de l'entreprise. Ça s'appelle un syndicat. C'est super, hein. Ça existe déjà, mais si vous voulez le faire à l'intérieur, ou faites appel peut-être à des structures qui existent déjà. Donc, je pense à Binge Audio, où ils sont allés chez SNJ-CGT pour se syndiquer, pour se documenter, pour voir comment s'organiser en CSE. Enfin, ils ont été se former en droit du travail et ils en avaient besoin. Et l'un d'eux expliquait dans un article de Mediapart que, tout simplement, c'est parce qu'il n'avait aucune culture syndicale ou de lutte sociale de par ses parents, qui ne croyaient pas du tout à ces trucs-là, alors que son grand-père, lui, a fait partie de ces luttes-là. Donc, en une génération, on perd tout ce savoir-là qui est précieux et on doit tout recommencer. Donc, c'est un combat qui ne s'arrête jamais, le droit du travail. Donc, si vous sentez qu'effectivement, soit vous soutenez des entreprises qui ne vous semblent pas très, très carrées, ou vous-même, et ça tu le disais, qu'en fait la sororité ça commence par soi. Est-ce que, en prenant un peu de recul, est-ce que je traite correctement les femmes autour de moi? Est-ce que je suis dans une logique de domination? Ça peut être par des petits gestes. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais moi j'ai pas accès aux coordonnées de la dame qui vient faire le ménage régulièrement dans l'immeuble, dans les parties communes. Et par mon gardien, je sais pas trop comment la contacter. Et c'est con, mais je voulais lui donner des étrennes par exemple, parce que je lui dis bah... C'est peut-être pas grand-chose, mais peut-être ça peut l'aider. Et peut-être si on est plusieurs locataires, ça peut aider. Et ben, je me suis dit, mais arrête de t'emmerder, essaie de passer par un tel. La prochaine fois que tu la croises, tu lui donnes ce que t'as, et puis c'est tout.
Voilà.
Et j'ai fait ça, et elle m'a dit merci, et merci, au revoir, c'est tout. J'attendais rien d'autre de sa part. Ben, je me dis que si on est plusieurs à faire ça avec ces personnes qu'on arrive à croiser, ben, je pense que ça peut aider.
Bien sûr.
C'est par des petits gestes. Est-ce que toi, tu vois d'autres gestes qu'on pourrait avoir, ou une prise de recul par rapport aux actions qu'on peut mettre en place envers les femmes pour être dans une sororité autour de nous.
Ah oui, mais ça, c'est vraiment infini. C'est vraiment, on a une infinité de gestes qu'on peut faire. Déjà, vraiment commencer par se remettre en question, se demander qui est-ce qu'on a pu opprimer, de quelle manière. Et puis, alors évidemment, opprimer, ça fait peur. C'est un gros mot, mais voilà, on peut opprimer d'un tas de façons différentes. Ça peut être vraiment juste le fait de ne pas répondre bonjour à la caissière, c'est déjà une forme d'oppression. Donc vraiment, c'est des petites choses sur lesquelles on peut travailler à son échelle personnelle. Donc vraiment, commencer par se poser des questions là, se demander aussi dans ses relations personnelles si on a des comportements humiliants envers d'autres femmes, si on a des réflexions qui sont inappropriées, comme par exemple le fait de sans cesse faire remarquer aux personnes qu'elles ont pris du poids ou qu'elles en ont perdu, ou de justement les définir par rapport à leur physique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on réserve aux femmes en général. Ça, on peut se poser des questions là-dessus. On peut commencer à se mettre des limites et se dire, voilà, aujourd'hui, je ne vais pas du tout commenter le physique des personnes. Je vais essayer de faire des compliments qui ne sont pas liés au physique. On peut dire à une femme qu'elle est rayonnante. Voilà, tout simplement, on peut lui dire... qu'elle sent bon, enfin je sais pas, mais c'est voilà, c'est complètement infini, mais on peut parfaitement justement être très cordial, très amical, mais sans intégrer tous ces éléments-là. Chacune balaye devant sa porte, chacune fait son auto-inspection, chacune réfléchit à ce qu'elle a pu faire et comment réparer.
Alors sur la sororité, il y a plusieurs de mes contacts, copines d'Instagram qui m'ont dit il y a un sujet de sororité qu'on évoque peu, qui est très compliqué dans le cadre des relations amoureuses, intimes, sexuelles, sex friends, ce que vous voulez. Il a pu m'arriver, et je l'ai dit et je le redis, de fréquenter dans un cadre sexuel des hommes qui étaient en couple. Là, j'ai lâché la bombe, là. Donc, bon, ok. Et là, des gens m'ont dit, mais alors, pour tes valeurs féministes de sororité, est-ce que tu penses à l'autre femme? Peut-être qu'elle en souffre, peut-être elle n'est pas au courant, mais... ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Enfin, moi, je suis ouverte là-dessus, donc moi, ça me dérangerait pas. Mais est-ce que là aussi, ça rentre dans ce champ-là? Ou est-ce que, et moi, je me suis toujours mis plutôt là-dedans, mais en fait, c'est pas moi qui trompe dans cette histoire, c'est, faut pas déresponsabiliser le garçon. Est-ce que on se dit que la sororité, ça va aussi loin dans le champ, y compris personnel et intime, quoi?
Alors là, c'est vraiment une question morale, et chacun, voilà, met sa morale où il en a envie. À titre personnel, je pense qu'il faut éviter. Je suis pas en train de faire la morale à qui que ce soit, c'est vraiment, je vous explique ce que moi, je m'impose. Quand il y a un homme qui est déjà en couple, évidemment, c'est lui qui trompe. Évidemment, c'est lui qui trompe. C'est lui le problème principal. Le problème, c'est qu'on participe à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on contribue à ce qu'une autre femme se sente mal, à ce qu'une autre femme se remette en question, commence à se sentir moche, pas assez bien. À mon avis, voilà, si c'est quelque chose qu'on peut éviter, on évite. Moi, ma mère dit souvent, pourquoi on manque d'hommes là maintenant? Enfin, c'est vraiment une espèce d'état d'esprit que j'essaie de toujours de garder en tête. Ça m'est arrivé, voilà, d'avoir des crushs sur des types qui étaient en couple. Mais honnêtement, voilà, à partir du moment où je sais qu'il est en couple, il devient un petit peu tabou. Ça devient comme un frère ou quelque chose comme ça. Alors forcément, je l'aime beaucoup et tout ça, mais même pour mon estime de moi, en fait, j'ai pas envie de partager. J'ai pas envie de m'immiscer dans un couple qui est déjà là. Pour moi, voilà, s'il se sent pas bien dans son couple au point d'avoir besoin d'aller voir ailleurs, bah c'est qu'il est temps de se séparer et de passer à autre chose, quoi. Et j'ai tendance à toujours garder à l'esprit que voilà, il y a que les hommes qui bénéficient de ces histoires-là. Que ce soit la femme trompée ou la maîtresse, c'est toujours elle les perdantes, finalement. Donc, c'est une espèce de jeu de dupe auquel je pense qu'il est préférable pour les femmes de ne pas participer. Ça reste ma morale personnelle. Voilà.
Alors, dans mon cas, je ne sais pas trop aujourd'hui, mais c'est vrai que, comme pour la plupart d'entre eux, ils me disaient que ça se passait super bien dans leur couple, en fait. Tu veux, ça se passe tellement bien que t'es là. Bah oui, mais en fait, ça fait partie de mon équilibre. Mmh. Oui, d'accord. Et là où il y a aussi une étape qui a été franchie, et chacune met ses limites là où elle peut, si je me disais, mais là, présentement, elle est enceinte, si j'ai bien compris. Mmh. Et donc, il se passe quoi si, bah, je sais pas, elle a des contractions et bah, j'éviterais à ce moment-là qu'on soit ensemble, quoi. Je me pose des limites quand même. Je dis, ok, donc chacun a son truc.
Ouais, chacun a son curseur moral
voilà.
À un endroit différent.
Donc, je vous invite à répondre aussi à cette question en commentaire, n'hésitez pas. Et pour finir sur quelque chose de moins immoral ou moral, mais plus joyeux, j'ai vu que dans plusieurs podcasts que je citerai bien sûr en commentaire, on t'a demandé si tu devais citer un lieu et tu as dit Alger. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce choix?
Bah, Alger, c'est ma ville de naissance déjà. C'est une ville qui est vraiment à part. Alger, c'est comme Naples, c'est une ville que, de prime abord, on peut avoir du mal à appréhender, mais une fois qu'on réussit à comprendre, un petit peu à se repérer dans ce chaos, d'un seul coup, ça devient la plus belle ville du monde.
Alger, c'est vraiment une ville assez unique. Voilà, il y a tellement de cultures qui se superposent et toutes ces couches-là, il y a tellement à gratter, tellement à découvrir. J'ai passé beaucoup de temps sans y retourner. J'y étais pas allée pendant une dizaine d'années, bien plus qu'une dizaine d'années. Et là, j'ai dû y retourner quand mon père est tombé malade récemment. Il va mieux, hein, je précise. Ça a été vraiment l'occasion de redécouvrir la ville avec un autre regard, un regard un peu plus adulte. C'est un monde. Alger, c'est un monde, en fait.
Écoute, merci pour ces mots. Alger, moi, j'aimerais bien la découvrir autrement que quand je suis dans ma famille où je ne vois que les murs des maisons de mes tantes et j'ai pas l'occasion de voyager, de visiter. Mais Inch'Allah, comme on dit, peut-être que ça viendra un jour.
Inch'Allah.
Et je vous mettrai aussi, bien sûr, les références d'auteurs et autrices qui parlent très bien d'Alger. Il y a des recueils de nouvelles qui sont magnifiques, qui parlent de l'Alger d'aujourd'hui avec les Algérois, Algéroises et ce qu'ils vivent au quotidien. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut découvrir une ville parfois par ses auteurs et ses autrices. Merci beaucoup, Racha.
Merci à toi.
Vous pouvez retrouver cet épisode comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast et balado-diffusion. Coucou aux Québécois, à toute la francophonie. Merci de mettre des étoiles et des notes un peu partout où vous pouvez. Ça aide Single Jungle à remonter dans les classements. Merci aussi de participer au Tipeee qui permet de payer le montage et l'hébergement de ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.